Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago numéro 948 aujourd'hui. Sweet Home Chicago en ce samedi 15 novembre qui démarre avec Paul Personne, bien sûr. M'envoler plus haut, extrait de Puzzle 14, le disque coup de cœur du mois pour novembre 2014 pour Sweet Home Chicago. Voilà, on est ensemble jusqu'à 16h. J'espère que tout le monde va bien. Au programme, au menu cette semaine, eh bien, en première heure, on aura Claude Danick, auteur, écrivain d'un livre qui s'appelle Mississippi Blues. On s'entretiendra avec lui au téléphone d'ici un petit quart d'heure. Durant cette première heure, donc, on aura quelques extraits également d'un disque qui lui tient particulièrement à cœur, un disque qui est sorti il y a une vingtaine d'années, mais que tous les amateurs de blues se doivent de posséder dans leur discographie, dans leur discothèque, bien sûr. En deuxième heure, un invité en live, il s'agit de Marc Mitou, qui va vous parler d'un tout nouveau festival sur Caen pour les bluesmen amateurs et les autres. Voilà, donc, je vous en dis pas plus. Et puis, en troisième heure, comme d'habitude, vos dédicaces, des vieilleries, des petites surprises et des nouveautés tout au long de cette émission, comme par exemple cet album d'Angèle Forrest. Angèle Forrest, la chanteuse canadienne avec Paul Deslauriers, qu'on connaît bien pour ses collaborations depuis fort longtemps avec une certaine Dawn Tyler Watson. Et puis Denis Coulombe, ça s'appelle Live Love. Ça a mérité un Maple Blues Award, s'il vous plaît, pour la Female Vocalist of the Year pour Angèle Forrest, et puis pour le Guitar Player of the Year, Paul Deslauriers. Autrement dit, c'est excellent. L'album s'appelle Live Love, et voici Move On.
Tell me, baby, do you know exactly what you think you're gonna do with me now? The sky's clouding over, my temperature's falling, and you got traveling on your mind. You're thinking forever's too long to give, and baby, you better move on. Move on. I've got a song to say, I ain't got no inspiration. You leave me cold without a trace. You know, you ain't my, oh, you ain't my favorite mistake. You thinking forever's too long together, then baby, you better move on, move on. The way you smile at me made me feel I couldn't be somebody. You just might wanna spend a little time, baby, spend it out. just wish on my time. You just wish on my taste. Oh, you better, better move it. Move away. Move on now, you better get on. Better get on out. Baby, get on out.
Nicolas Paul de Laurier, mesdames et messieurs.
Et oui, c'était du live et puis le double album est comme ça entièrement, c'est superbe, avec deux guitares acoustiques, Paul Delaurier, Denis Colombe et puis la fantastique voix de Angel Forrest, l'album Live Love. Qu'on peut se procurer pas forcément par ici, mais en tout cas en commandant sur le net, il n'y a pas de problème. Morningstar Productions, ça nous vient du Canada et ça a été envoyé par l'ami Brian Slack de Zeb Productions. Merci encore Brian. On écoutera également Steve Strongman un petit peu plus tard dans l'émission. En attendant, voici une production Alligator Records, ça nous vient de Chicago, monsieur Jericus Singleton qu'on a écouté là, il y a 15 jours dans la dernière émission, un extrait de Refuse to Lose. En voici un autre, le titre album Jericus Singleton dans la radio.
To the top and I can feel it. Drop the top on my future, no ceiling. I feel real good when I walk in the building. My soul is my weapon, I won't conceal it. I suffered so many years, I cried so many tears. Some things I don't understand, but I took my hits just like a man. Y'all ain't caught on to it yet. Or maybe this time you won't forget. I win at whatever I choose, 'cause I refuse to lose. To pay the bills I had to sweat, I worked hard jobs with no regrets. I scrubbed toilets till squeaky clean, and I scrubbed floors with Mr. Clean. My friends, they wrote me off, talked about me like a dog. But I had to maintain all eyes against me, but I worked through the pain. Y'all ain't caught on to it yet. Or maybe this time you won't forget. I win at whatever I choose. My spirit's been low. Those are times I cherish the most, 'cause they made me dig deep within. If you think I'ma lose, you better think again. Spending nights in my mama's house, brainstorming on my mama's couch. Then I grab my six-string girlfriend, I tune the world out. Now the world's tuning in. Y'all ain't caught on to it yet. But maybe this time you won't forget. I win at whatever I choose, 'cause I refuse. We'll be right back.
Jarecus Singleton, extrait de cet album de chez Alligator Records qui s'appelle Refuse to Lose. Et puis pour illustrer l'interview de Claude Danick dans, allez, exactement 2 minutes 57, voici un titre extrait de From the Cradle, l'un des albums les plus connus d'Eric Clapton, en tout cas pas forcément les plus vendus d'ailleurs, je sais pas, mais les plus connus par les amateurs de blues. On va écouter tout de suite Blues Before Sunrise, Eric Clapton en 1994. Monsieur Eric Clapton, qui a fait bien d'autres choses depuis. From the Cradle, enregistré en 1994 chez Reprise Records, comme tous les albums de Clapton maintenant. Pourquoi ce disque? On va en savoir un petit peu plus tout à l'heure. En attendant, j'accueille Claude Danick. Salut Claude, ça va?
Salut Marc, ça va?
Bah écoute, on t'entend pas trop mal. Voilà, on peut peut-être baisser un peu le retour, ça sera meilleur. Claude, t'es sur Paris là?
Oui.
Voilà, chez toi, à Paris, tranquillement. Et puis, rappelons pourquoi j'appelle Claude aujourd'hui sur le 666. Ben, c'est tout simplement parce que tu as commis un deuxième ou troisième livre, d'ailleurs.
Le troisième.
Troisième livre, qui s'appelle Mississippi Blues. Alors, ce qui serait intéressant pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, il y en a peut-être deux ou trois parmi vous, avant de parler du livre, peut-être parler un petit peu de toi, Claude. Je voulais savoir, d'abord, on connaît, quand on te connaît un peu, on connaît ta passion pour la musique. Je voulais savoir comment tu avais été initié à la musique.
Alors, en fait, ça s'est fait par hasard. Je faisais des courses de vélo, donc ça n'a rien à voir avec la musique. Mais le fils du président du club était un passionné de musique et m'a fait découvrir les Doors, les Rolling Stones et tout. Et en écoutant les Rolling Stones, je voyais les noms qui étaient marqués entre parenthèses. Et donc ça m'a fait remonter à la filière, à arriver au blues.
C'est incroyable le nombre de gens qui sont venus au blues par le rock'n'roll, et notamment par les Rolling Stones, hein, c'est rare, on ne le rappellera jamais assez. Il y a 15 jours encore, on était avec Jack Bon au téléphone, c'était le même type de réponse. C'est vrai que le blues boom revival, on ne l'a pas forcément connu quand on est né dans les années 60, comme toi et moi, mais par la suite, il y a des groupes qui ont poursuivi l'œuvre et qui continue d'ailleurs encore maintenant. Est-ce que ce sont des disques que, avec lesquels tu as découvert le blues, est-ce que ce sont des disques que tu continues d'écouter, Claude?
Oui, tout à fait. Mais comme j'ai découvert les originaux, j'ai, je dois dire, une nette préférence aux originaux, quoi.
Oui.
Les originaux, pardon.
Les pionniers du blues.
Les pionniers, oui.
C'est-à-dire des gens comme Robert Johnson, par
Robert
exemple.
Robert Johnson, oui. Olin Wolf, Moody Waters, les grands classiques, Johnny Rogers.
Ce sont des gens que tu continues d'écouter.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu es musicien ou est-ce que...
Non, je gratte un peu de guitare, mais ce serait prétentieux de dire que je suis musicien. Je joue pour moi-même, on va dire. Il vaut mieux.
Ah, il vaut mieux. Bon, je sais pas. Est-ce que tu as tenté de devenir musicien? Est-ce que ça t'a titillé quelque part, par exemple, de te produire seul ou en groupe?
Bah, c'est-à-dire que j'ai été comédien. Je faisais des sketchs. Et donc, pour un sketch, j'avais besoin d'une guitare. Donc, un ami musicien m'a appris 3 accords que je jouais pour réaliser mon sketch.
D'accord, et donc ça t'a servi pour le monde du spectacle. Donc c'est,
ouais.
Voilà, le comédien, musicien, on est un petit peu borderline, on est un petit peu à la limite des deux, c'est vrai que la frontière est assez fine. C'est le genre de choses qui te plaisait, qui continue à te plaire de produire en public?
Ah, plus maintenant, non, maintenant je préfère écrire tout seul chez moi, bien à l'abri des regards. J'étais peut-être pas fait pour la scène, j'étais trop timide... Trop impulsif aussi, j'étais toujours bouffé par le trac et j'étais très mal les jours où je devais jouer.
Ah oui, donc si on n'y trouve pas que du plaisir, mais
non,
aussi...
Non, c'était très douloureux. Ouais.
D'accord. Et quel est ton rapport à l'écriture, Claude, alors?
Alors là, j'ai pas de préférence. Je peux écrire dans la journée comme la nuit. J'ai l'avantage de vivre seul, on va dire, et donc je peux m'aménager mes horaires comme je l'entends.
Et alors, l'acte d'écrire, c'est quelque chose que tu considères comment? Quelque chose d'essentiel, quelque chose de salvateur, quelque chose d'indispensable, quelque chose d'accessoire?
D'indispensable.
Vraiment?
Je crois que je préférerais qu'on me coupe une jambe plutôt qu'on m'empêche d'écrire.
Qu'est-ce qui te motive dans l'acte d'écrire? J'ai 3 réponses à te proposer, Claude. Alerter, informer, distraire. Qu'est-ce que tu mettrais en premier?
Oh, je vais te dire, ça peut paraître prétentieux, mais je vais dire informer et distraire après.
Ouais.
Alerter, non, je n'ai pas cette prétention-là quand même.
C'est ce que j'ai ressenti à la lecture de ton roman Mississippi Blues. Enfin, j'ai ressenti un peu les 3. Je voulais savoir si tu allais les serrer, les hiérarchiser. Alerter, informer, distraire. Alors,
oui, je vois pourquoi tu dis alerter, parce qu'il y a un côté politique.
Exactement.
Oui.
Exactement. Parce qu'on n'a pas affaire avec Mississippi Blues à un roman stricto sensu quand même.
Oui, on peut dire ça, oui.
C'est pas un roman comme qu'on lit de A à Z en ayant une histoire tout le temps. Je veux dire, voilà, moi j'ai senti des coupures dans le récit et avec des illustrations que tu as voulu donner par rapport à l'état actuel des États-Unis, parce que ça se passe aux États-Unis et puis ça reste un pays très ségrégué, les États-Unis.
Oui, tu mets le doigt dessus, c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Raconter une histoire et puis l'illustrer avec des vignettes, des sortes de petites alarmes politico-économiques sur la situation aux États-Unis. Oui.
D'où le verbe alerter que je voulais employer tout à l'heure.
Oui, c'est vrai, on peut le dire. Enfin, alerter, ça fait quand même alerter les pompiers, quoi, je veux dire...
Alerter, ça peut vouloir dire aussi éveiller les consciences, peut-être.
Oui, peut-être, oui. Dans ce sens-là, oui, tu as raison, oui.
Plus dans ce sens-là, je trouvais.
Oui.
Alors, distraire, évidemment, un roman, c'est fait aussi pour s'évader. Un livre, c'est pas seulement fait pour apprendre des choses, mais quand on a fait un roman, ben, on voyage grâce à une histoire. Ce sont des lieux, les États-Unis, notamment le Mississippi, que tu connais bien.
Oui, que je connais bien... Peut-être pas, mais que j'ai visité à plusieurs reprises.
Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu, Claude, de ces souvenirs de voyage au fil de tes pérégrinations? Je sais qu'on te voit notamment en photo sur la tombe de Robert Johnson, enfin l'une des tombes présumées de Robert Johnson. C'était un pèlerinage, c'était quoi le but
du voyage? Un retour aux sources. En fait, j'ai des photos des 3 tombes, parce qu'on ne sait pas laquelle est la vraie.
Ouais.
Peut-être aucune des 3... Et donc j'ai des photos avec les tombes de Robert Johnson. C'était plus par respect que par m'as-tu vu, hein, bien sûr. J'ai également visité les tombes de Mississippi Mississippi, John Hurt, de Freddie King, d'Albert King et tout. Quoi.
Le fait d'aller sur les tombes des bluesmen disparus, les gens que tu continues d'écouter, les gens qui t'ont fait découvrir cette musique-là, ça te procure quel sentiment ?
Un sentiment de respect vis-à-vis d'eux. Même si je ne suis pas croyant, je pense que le fait d'aller les visiter ces tombes, c'est de les faire perdurer, leur redonner une vie, même s'ils sont toujours vivants par la musique et s'ils restent immortel grâce au blues.
Claude, tu sais que l'émission est écoutée en Normandie, autour de Caen, sur les ondes hertziennes, mais également sur le net, et forcément, grâce à Facebook, il y a des gens qui se connectent d'un petit peu partout et qui peuvent nous écouter en ce moment en interview en direct. Il y a des gens que tu connais particulièrement, je pense à Patrice Rayon qui est en train de te poser une question là sur Facebook.
Oui, je connais très bien Patrice, bonjour Patrice.
Patrice Rayon, et qui te demande, est-ce que tes voyages t'ont fait gagner beaucoup de temps pour découvrir le blues ? Est-ce que tes voyages pour les interviews t'ont fait gagner beaucoup de temps pour découvrir le blues ?
Je ne sais pas s'ils m'ont fait gagner beaucoup de temps, parce que je suis allé dans des lieux que je connaissais déjà. Donc ça a approfondi certaines connaissances que je pouvais avoir. Mais ça m'a pas fait gagner énormément de temps, parce que maintenant, avec Internet, tout se sait très vite. Hein.
Mmh. Et il te demande en corollaire, est-ce que tu utilises aussi des échanges que tu as eus avec des musiciens pour trouver ton inspiration dans les livres, dans tes livres ?
Non, pas vraiment, non. Mes échanges avec les musiciens, c'était lorsque j'étais aux États-Unis, il y en a tous qui connaissent un endroit où on joue le soir. Mmh. Donc on leur demandait, est-ce que vous jouez ce soir dans tel club ? Il disait non, moi je joue pas, mais un tel joue, allez-y de ma part. Et donc on allait dans les clubs où on était parfois les seuls blancs dans les clubs. Et tout de suite on avait un accueil magistral, parce que les musiciens se doutaient bien que vu la couleur de notre peau, on n'était pas américains mais européens. Donc ça leur faisait d'autant plus plaisir.
C'était pas la même chose, c'était pas la même démarche pour eux alors.
Oui. Parce que malheureusement, les blancs américains ne vont pas dans les clubs noirs, sauf les musiciens et les amateurs de blues, j'entends. Hein.
Quand tu dis « on », Claude, tu n'étais pas tout seul lors de ces voyages.
Non, 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 j'étais avec des amis, dont Jocelyn et Bernard, que tu connais, et André aussi.
Jocelyn Richer, Bernard Delvoye, j'imagine.
Oui.
Et puis le troisième ?
André Cauchepin.
D'accord, que je connais moins bien, mais voilà, ce sont des gens qui s'intéressent de très près au monde du blues, et puis qui sont un petit peu les Jacques Demaître et les Courtes Morts des années 2000, on va dire, les années 90 et 2000. Donc j'ai d'autres questions qui arrivent. Tu sais que voilà, ça fuse là. Il doit y avoir des gens que tu connais ou qui aimeraient te connaître davantage. Cécile, voilà, qui est en train d'écouter et qui te demande, est-ce que tu prends autant de plaisir à écrire tes articles ? Et à écrire les romans, ce n'est pas le même genre d'écriture, de travail. Rappelons que tu es également chroniqueur, Claude.
Oui, je prends plus de plaisir à écrire des romans, parce qu'on est plus libre, et donc on peut se lâcher comme on veut.
Ouais.
Et le roman, on peut le tordre de toutes les matières, dans toutes les matières, comme un forgeron qui travaillerait sur du fer et pourrait en faire ce qu'il veut. Et tandis que dans un article, il y a des délais à respecter, il y a des lignes à respecter. On peut pas tout dire dans un article.
Alors tu parles de tordre et de remanier. Moi j'ai une question en corollaire à ça, parce qu'on parlait de la structure un petit peu du roman Mississippi Blues, qui a une trame, une histoire, et puis qui a également, comme tu disais, des vignettes, soit informatives, soit d'alerte par rapport à l'état actuel des États-Unis, mais également des notices biographiques. Hein, selon l'histoire, on apprend la vie de Howlin' Wolf, de certains bluesmen comme ça que tu cites au fil du roman. Ça t'a pris combien de temps d'écrire tout ça ? Parce que j'imagine que voilà, il y a trois fils en fait à suivre. Il a fallu tout recoller. C'est comme un patchwork, Claude.
Oui, mais je l'ai écrit assez vite, parce qu'en fait, j'ai rêvé de l'histoire. Le début, la jeune fille qui se fait vendre dans un orphelinat, ça m'est arrivé par rêve. Ouais. Et au matin, je l'ai noté, mon rêve, et comme ça, je l'ai pas oublié, mais en me disant, ça finira à la poubelle. Et puis quelques semaines, voire quelques mois après, j'y suis replongé. Et là, je me suis dit, il y a peut-être une trame à faire quelque chose. Et je me suis mis à écrire le roman sans savoir où j'allais. Puis j'ai arrêté, puis j'ai recommencé. Puis je l'ai proposé à l'éditeur. Il m'a dit, il faut le retravailler. Et donc, je l'ai retravaillé, mais en tirant les pieds au début. Parce que au début, je me demandais vers où j'allais. Et finalement, j'ai pu trouver quelque chose qui me pourra peut-être un jour me satisfaire, mais il faudra peut-être que j'y retourne, je ne sais pas.
Que tu y retournes, dans quel but donc?
Dans le fait de le retravailler, ouais. j'ai une amie qui s'appelle Dominique Sylvain, qui est romancière, qui a réécrit tous ses bouquins. Bon, moi, je ne pense pas avoir un jour la persévérance et la patience de le faire, mais celui-là, peut-être que je le retravaillerai.
Et donc, ça veut dire que la version que j'ai entre les mains deviendra collector, Claude.
Oui, oui.
J'ai d'autres questions qui arrivent. Bah, tiens, toujours Cécile, voilà, qui te demande si les rencontres t'ont marqué. Il y a des rencontres qui t'ont marqué plus que d'autres. J'imagine qu'en corollaire, il s'agit de rencontres avec des musiciens ou avec, en tout cas, des Américains, des gens du Mississippi.
Oui, il y a un musicien qui est malheureusement décédé. C'est un chanteur qui s'appelait Little Scotty, qui chantait dans les clubs de noirs de Chicago.
Tu veux parler de Little Scotty and the Riptips, qui faisait partie d'une compilation Alligator aux années 77-78, un groupe de Chicago à l'origine.
Je ne pense pas que ce soit ça. Moi, j'ai des disques de lui, mais ils sont autoproduits.
Ouais, non,
je ne pense pas qu'il était chez Alligator. Il est décédé, malheureusement pour lui, d'un cancer de la gorge. Et quand on est chanteur avec un cancer de la gorge, c'est le pire qui puisse y arriver. Quoi.
On connaît James Cotton comme ça, et lui, il continue à jouer de l'harmonica, mais le chant s'est terminé, effectivement.
Ouais. Et tandis que Little Scotty, lui, il n'avait pas d'instrument. Son seul instrument, c'était sa voix.
Ouais.
Et donc, il a fini en vendant des souvenirs dans la rue, des badges d'Obama. Je l'ai vu plusieurs fois quand j'allais à Chicago, c'est toujours avec beaucoup d'émotion, parce qu'on le voyait dépérir, donc on lui donnait de l'argent pour qu'il puisse manger quand même. Mais ça a été très dur pour lui,
ouais.
Et pour nous de le voir ainsi.
D'autres rencontres qui t'auraient marqué particulièrement pour l'écriture de Mississippi Blues?
Non, c'est la rencontre s'est faite par le disque de Clapton. Donc Clapton, je l'ai pas rencontré. Donc il y a.
Je te donnerai son numéro de portable après.
D'accord.
Alors il y a une autre question qui arrive, qui est signée Charles Sampère, qui te demande: est-ce que tu t'es concentré sur les paroles de chansons blues, et en corollaire, est-ce que les textes ont autant d'importance pour toi que la musique? Là, on parle plutôt aux mélomanes, on va dire.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a 50-50. Le texte est aussi important que la musique, et vice-versa. Ouais.
Alors, pour revenir sur ce roman, Claude, moi, j'aurais, si tu le permets, peut-être pour les auditeurs, un petit extrait à lire. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, si tu veux, oui.
J'arrive page 39 déjà, alors je ne vous dis pas ce qui se passe avant l'histoire, ni après, enfin voilà, on arrive à un paragraphe qui commence comme ça. Comment tuer deux hommes de 80 kilos lorsqu'on est qu'une petite fille de 40 kilos, et comment se débarrasser des corps sans être inquiété? C'est la question qui taraude Johanna et l'empêche de fermer l'œil. Dave a donné son nom à la réception du motel. Personne n'a sans doute remarqué la présence de cette fille restée dans la voiture. La chambre est payable d'avance et Dave s'en est acquitté. Peut-être a-t-on vu Jim présent à ses côtés dans le véhicule. Si les deux corps disparaissent, la direction du motel va s'inquiéter de ne voir personne rendre la clé. Elle ne peut la rendre elle-même sans se compromettre. Comment les tuer? Avec quelle arme? Johanna n'en a aucune. Ni revolver, ni couteau, ni rien. Et puis si elle réussit à les oxyre, comment transbahuter les corps au dehors? Comment effacer les traces de sang si elle en laisse? Personne ne sait qu'ils sont descendus dans ce motel. Les clients des chantiers ne savent jamais où ils se trouvent. Il y a tant de chantiers en cours. Madame Curtis n'est pas sans savoir que Johanna se trouve avec eux. Il ne faut pas qu'elle sache. D'ailleurs, comment pourrait-elle expliquer aux autorités qu'elle a vendu la petite fille? Il ne faut pas que l'on trouve les corps des deux hommes. Il ne faut pas laisser de sang dans la chambre. Johanna réfléchit et réfléchit. Toute la nuit. Sans dormir une seconde. Le matin est venu. Dave va prendre une douche pendant que Jim se rase. Avec un rasoir mécanique. Du genre à contenir une lame que l'on jette après plusieurs usages. Ce n'est pas un rasoir électrique, pas un jetable à 3 cents. Un rasoir mécanique avec une lame que l'on change. Voilà, je m'arrête là, Claude, parce que il se passe des choses, bien sûr, après. On est plongé directement dans l'histoire. Je veux dire. Moi, j'ai tenté une chose, j'ai tenté, après la lecture intégrale, de reprendre le bouquin à n'importe quelle page. Et tu sais ce qui s'est passé?
Non, tu vas me le dire.
Ben, j'avais envie de tourner la page et de lire la suite, parce que voilà, c'est à n'importe quel moment, je te parle de la trame, la partie roman, hein, autour de ce personnage qui est Johanna, la jeune orpheline. Voilà, on aimerait qu'il se passe quelque chose, on aimerait lire la suite, quoi. Enfin, c'est l'impression que j'en ai eu, en tout cas. Johanna, donc tu as dit pourquoi tu avais choisi ce personnage, Claude, c'est suite à un rêve dont tu t'es souvenu. Est-ce que tu penses que ce genre de choses, toutes les péripéties qui arrivent à cette jeune fille, auraient pu se produire, pourraient encore se produire de nos jours aux États-Unis?
Oui, malheureusement, oui. Parce qu'il y a de plus en plus d'enfants abandonnés, et donc de plus en plus d'orphelinats, et ça peut arriver, ces choses-là. Moi, je l'ai rêvé dans mon rêve, elle essayait de devenir chanteuse de jazz, mais quand je m'y connaissais plus en blues, j'ai changé un peu. Mais malheureusement, ça peut arriver, oui.
Alors, je voudrais lire un autre
passage. En tout cas, je te remercie de ces compliments et de ta lecture.
Ben, je t'en prie, Claude.
Avec plaisir.
Je voulais également peut-être que les auditeurs aient un petit aperçu de ce que tu peux écrire à propos de la situation, on va dire, géo ou sociopolitique des États-Unis. Voilà une info, ça rejoint à la question de tout à l'heure, alerter, informer, distraire. En 2011, les 400 Américains les plus fortunés ont encore vu leur patrimoine augmenter de 200 milliards de dollars, soit 150 milliards d'euros. Pendant que l'immense classe moyenne se retrouve au régime sec, les banques et les grosses fortunes ne savent comment dépenser leurs milliards. Selon le New York Times du 1er octobre 2012, les firmes de private equity, des fonds privés de capital investissement, se heurtent à un problème de taille. Elles ont amassé un trésor de 1000 milliards de dollars, ça me rappelle un film ça d'ailleurs, 1000 milliards de dollars, soit 770 milliards d'euros, un peu plus du tiers du PIB de la France, ça fait rêver. Hein. Et elles n'arrivent pas à le dépenser. Près de 200 milliards de dollars levés en 2007 et 2008 doivent être fondus dans les 12 mois, sinon cet argent devra être rendu à ceux qui ont apporté les fonds. Et ça continue, tu donnes des chiffres là. La première question qui me vient à l'esprit, Claude, d'où viennent tous ces chiffres, quelles sont tes sources finalement?
Alors en fait, je suis abonné à plusieurs revues américaines.
Oui.
Et donc j'ai pu voir ça dans la presse. Et un petit travail d'investigation après sur l'internet aussi pour vérifier l'exactitude des chiffres. Parce que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut parfois. Et donc, et puis il y a des revues françaises comme le Courrier International,
oui.
Qui reprend, qui fait un best-of un peu, enfin une compilation, on va dire, par les Français, des meilleurs articles parus aux États-Unis parfois, et il y a de bonnes choses. Hein.
Je vais lire un autre passage. C'est un petit peu plus tard. On ne sait pas ce qui s'est passé entre deux, même s'il s'est passé des choses. Johanna arrive. Johanna continue ses péripéties, son voyage. 50 miles, soit 80 km, séparent Indianola de Yazoo City. Voilà, ce sont des noms de villes qui parlent, évidemment. Johanna les effectue en une heure. Indianola est la ville de B.B. King, même s'il est né à Itabena, une bourgade non loin de là, en 1925. En 1943, en quête de travail, B.B. King débarque dans cette ville. Il y trouve un emploi dans la plantation de Johnson Barrett, où il conduit un tracteur. Tout ça, c'est rigoureusement exact, Claude, bien sûr.
Oui. En fait, ce genre de choses, des passionnés comme toi, Marc, le savent, mais je veux écrire un truc grand public, donc j'ai mis des évidences, des vérités qui puissent intéresser tout le monde, je vais dire.
Des éléments biographiques à propos de certains bluesmen, ce sont des noms de bluesmen que tu n'as pas choisi au hasard. Bon, on parle de B.B. King, qui est l'un des plus connus, bien sûr. Tu citais tout à l'heure Muddy Waters, tu citais Robert Johnson, par exemple. Ils font partie de l'histoire des États-Unis, bien sûr. J'ai une autre question en corollaire à ça. Est-ce que tu penses que les Américains sont sensibles et conscients de tout ce patrimoine musical?
Hélas, non. Non. Mais enfin, la situation évolue quand même, puisque B.B. King a été reçu par Obama à la Maison Blanche, même par Clinton, il avait été reçu, Buddy Guy aussi. Donc ça évolue, mais les Américains n'ont pas conscience du trésor de guerre qu'ils ont à leurs pieds.
J'ai un autre extrait, ce sera le dernier, Claude, on arrive vers la fin du livre, sans dévoiler aucun suspense, ça, je te rassure. Johanna trouve une place et se met à jouer. Très vite, elle connaît le succès et s'attire la sympathie du public. Plusieurs personnes même l'encouragent à tenter une audition devant Morgan Freeman au Ground Zero. Tout le monde sait que Morgan Freeman, l'acteur connu de tous, possède un lieu sur Clarksdale qui s'appelle le Ground Zero. D'ailleurs, je me souviens non pas y être allé, mais avoir vu un superbe DVD, un magnifique DVD avec un certain Bobby Rush. C'est un endroit que tu as visité, que tu connais?
Oui, oui. On était allé, mais on a mangé à midi. le soir, il y avait quelqu'un qu'on connaissait pas, et c'était un blanc. Ouais. Donc on a eu un a priori un peu négatif de notre part. On s'est dit, c'est peut-être du blues rock. Donc on voyait sur l'affiche un grand et des cheveux blonds et très longs. On s'est dit, oh, c'est peut-être blues rock. On a peut-être fait une erreur, hein, mais je me souviens plus du nom du musicien. Donc on n'a pas assisté au concert.
Oui, enfin j'allais dire, après chacun son emploi du temps, vous avez peut-être d'autres kilomètres à faire, mais à mon avis, rien que pour l'ambiance, ça aurait pu être sympa de rester.
Oui, mais on voulait aller dans l'autre club, et l'autre club, on nous a dit de revenir à 22h, et à 22h on est revenu, on nous a dit 23h, minuit, et le temps qu'on avait de la route à faire le lendemain, on est parti se coucher, quoi. Donc c'est un peu dommage, on a fait Clarksdale un vendredi soir, ouais. Et on n'a vu aucun concert.
Clarksdale qui est, je crois, la ville natale d'un certain Johnny Hooker, non?
Si bah, c'est pas Tupelo, comme Elvis.
Alors Clarksdale, c'est oui, enfin c'est quelqu'un d'autre, voilà, tu vois, je tout.
Ike Turner et de Clarksdale.
Ike Turner aussi, bah, oui, exact. Ouais. Comment ça se passe ce genre de voyage, donc avec Jocelyn, avec Bernard, vous avez un programme préétabli, vous avez réservé les chambres d'hôtel à l'avance ou vous
laissez guider? Oui, tout est fait à l'avance. Ouais. Surtout par Jocelyn, il réserve tout dès février pour mai, juin. Mm-hmm.
Et donc, le fait d'écrire un roman comme Mississippi Blues, est-ce que ça aurait pu être fait, d'après toi, Claude, par quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds aux States?
Oh oui, bien sûr, oui.
Ouais.
Oui, bien sûr.
Avec Internet, avec un peu de documentation, avec...
Oui, mais il aurait fallu qu'il ait l'envie de le faire aussi, donc...
Oui,
enfin... Pour avoir l'envie, il faut peut-être y aller, quoi. Ouais.
Pourquoi ce titre, Mississippi Blues?
Tout simplement parce que ça se passe au Mississippi, que ça parle de blues.
Oui.
Et je me suis trouvé... Au début, j'ai hésité parce qu'il y avait le film de Tavernier qui s'appelle comme ça.
Oui.
Mais on m'a expliqué que le film de Tavernier date de 1988. Il y a 15 ans qui se sont écoulés. Oui. Donc, j'ai le droit de reprendre le titre. Et en plus, c'est pas un film. Donc, c'est un... Il y a une chanson de John Lee Hooker qui s'appelle Mississippi Blues aussi. Donc, c'est un titre qui a déjà été utilisé et qu'on peut réutiliser. Enfin, moi, j'avais le droit, en tout cas.
Ah oui, voilà, tu t'es renseigné. Donc,
ouais.
Parce que moi, quand j'ai appris que le titre c'était Mississippi Blues, j'ai tout de suite pensé au film de Bertrand Tavernier. Il y a plus de 15 ans, Claude, c'était il y a plutôt 25 ans, 1988.
Oui, c'est 88.
Oui, c'est ça.
Ouais.
J'ai une autre question, j'en ai même deux, tiens, sur Internet. Là encore, Cécile, voilà, qui te demande, est-ce que tu as de nouveaux projets de roman? Est-ce que ce sera toujours autour du blues? Parce que le précédent s'appelait déjà BZH Blues, hein, en rapport avec tes racines bretonnes, Claude. Celui-ci s'appelle Mississippi Blues. Voilà, la question de Cécile, est-ce que tu as d'autres projets de roman? Est-ce que ce sera autour du blues?
Oui, j'ai un projet, mais là, ce ne sera pas du tout autour du blues. Ce sera en relation avec une société multinationale française qui est connue pour ses suicides au sein de l'entreprise.
D'accord, qu'on va pas forcément citer là, je ne sais pas, comme tu veux.
Non, on ne peut pas trop la citer.
On ne peut pas trop la citer, d'accord. Ça va. Je crois comprendre. J'ai d'autres questions. Attends, j'ai une question qui n'en est pas vraiment une. Oui, si. Où est-ce qu'on trouve le bouquin? Évidemment, ça, j'allais te le demander à la fin, en fin d'interview. Claude, je te la pose, puisque c'est Patrice Rayon qui demande ça. Le fait d'avoir lu un passage lui fait envie. Il faut que j'ai la page suivante, dit-il. On trouve comment le livre? En cherchant sur Google ou sur le site de l'émission? Alors, voilà. Comment est-ce qu'on trouve le livre Mississippi Blues de Claude Danick?
On le trouve en tapant Claude Danick sur Google. On a mes trois bouquins.
Oui.
Et le moyen le plus simple et le plus rapide, ça reste Amazon. Même si Amazon, c'est un petit peu le grand Satan, puisqu'il ne paye pas ses impôts en France.
Oui, et puis qu'il va prendre son petit pourcentage aussi, accessoirement.
Comment?
Il va prendre son petit pourcentage.
Ah oui, hein, mais il va prendre moins que la Fnac.
Ah bon?
Donc pour un petit auteur comme moi, vaut mieux vendre chez Amazon qu'à la Fnac. Parce qu'à la Fnac, ils l'ont peut-être pas en stock, et ça va demander un délai, et la Fnac va prendre 40%. Oh, mes droits d'auteur, c'est 8%.
Oui, d'accord.
Ouais. Après, ça passera à 10, à 12 en fonction de mes ventes. Mm-hmm. Ça augmente jusqu'à 14. Mais pour l'instant, je suis à 8%. Et la Fnac, qui appartient à M. Pinault, milliardaire, demande 40%. Voilà. Donc, il vaut mieux le trouver sur Amazon. Mais en tapant sur Google, on trouve une vingtaine, trentaine de sites qui vendent mes bouquins.
Tu sais quoi, j'aimerais pas m'appeler Google, hein, tout le monde tape sur Google.
Ouais.
Patrice Rayon pose une question en un seul mot, autobiographique, point d'interrogation.
Oui. Oui, c'est autobiographique, hein? Oui.
Voilà, donc...
Enfin, pas l'histoire de
Joanna. Pas l'histoire de Joanna,
je ne suis pas Joanna, mais Je pensais qu'il parlait autobiographique pour mon prochain roman.
Oui, oui, peut-être.
Oui, là, ce sera autobiographique. Oui.
Alors, ce road trip qui s'appelle Mississippi Blues, signé Claude Danick, qu'on peut se procurer aux éditions Le Manuscrit. On peut trouver ça sur www.manuscrit.com. Est-ce que tu penses, Claude, que ça aurait une chance d'intéresser un producteur, un réalisateur pour une transcription sur l'écran, par exemple?
J'aimerais bien, oui. Mais ce serait... on pourra peut-être pas marquer toutes les... ce que tu appelais les alertes, les messages politiques, encore quoi que, je ne sais pas, je ne suis pas réalisateur. Mais bon, pour mon premier roman, il y avait quelqu'un qui était intéressé, et finalement, ça s'est pas fait. Pour des questions budgétaires, en fait.
Bon, bah écoute, en tout cas, il faut souhaiter... qu'est-ce qu'il faut souhaiter à un auteur? Bah, qu'il soit lu, bien entendu, et puis qu'il ait le plus de ventes possible. En 2006, c'était BZH Blues. En 2014, c'est Mississippi Blues. C'est toujours le même auteur, Claude Danick. Claude, on te retrouve sur Amazon, on l'a dit, hein, pour se procurer ce roman. L'histoire de Johanna, voilà, à qui il arrive plein de choses. C'est assez parfois cruel, assez dur. C'est vrai que tu emploies un vocabulaire de temps en temps qui peut choquer hein, certains lecteurs, mais cette crudité, on va dire, dans les propos, je pense, elle colle bien quand même au paysage et puis à ce qui se passe.
En fait, oui, c'est un roman qui est, sans faire de jeu de mots, qui est noir. Oui. Donc, on est obligé d'employer un vocabulaire assez fort. Je ne pense pas que ce qui soit cru, mon vocabulaire.
Enfin, cru, quand je disais cru, c'était pas par rapport à de la vulgarité ou à des grossièretés volontairement posées comme ça, mais non, c'était plutôt par rapport à le fait, voilà, cru dans le sens direct, tu vois.
Oui, 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 c'est vrai que c'est direct, oui.
Et puis on le sent aussi dans la rapidité d'écriture. Enfin, on a une impression, je ne sais pas si c'est le cas quand tu remanies, quand tu reprends ton chantier, ton brouillon, mais on n'a pas une impression de longue phrase, on n'a pas non plus une impression d'addition d'adjectifs, les descriptions sont courtes, sont brèves, sont rapides, sont efficaces. Enfin, c'est un style direct, on va dire.
Oui, j'ai voulu faire une écriture un peu coup de poing avec des phrases courtes. Et surtout pas de l'adjectif ou d'adverbe qui alourdirait le style.
Ouais, d'accord. Écoute, Claude, moi je te remercie beaucoup. Et puis je te remercie,
Marc.
Je te remercie encore d'avance pour les 5 auditeurs internautes qui vont pouvoir gagner l'un des exemplaires que tu leur réserves. Parce que tu m'as proposé ça, et c'est vrai que ça peut être sympa pour les gens qui s'intéressent suite à l'interview à ton livre. Un exemplaire dédicacé de Mississippi Blues par Claude Danick. Alors c'est tout simple, il faut aller sur le site internet de l'émission blues.radio666.com, et puis il y aura un petit tirage au sort début décembre pour savoir quels sont les 5 gagnants. Voilà, j'ai déjà quelques réponses, mais bon, on sera pas non plus 100 000. On a quand même une chance de gagner. Et puis pour les gens qui n'auraient pas gagné, ben, vous allez sur Amazon et vous procurez le livre de Claude Danick. Des choses à ajouter, des questions que j'aurais oublié de te poser, Claude?
Non, je crois qu'on a fait le tour.
Alors, il me reste à te remercier, et puis on va écouter un autre extrait de cet album d'Eric Clapton, puisque tu m'as donné l'occasion de l'exhumer de ma collection, From the Cradle. Tu aurais un titre en particulier qui te plairait d'entendre maintenant?
Pourquoi pas Five Long Years.
Allez, Five Long Years, d'accord, on va passer.
Qui a été repris et repris par d'autres, mais...
Ouais. Bah, notamment Buddy Guy, non?
Oui, tout à fait, oui.
Hein, c'est pas lui le créateur de Five Longers, justement, à vérifier.
Non, c'est pas lui. Non,
c'est pas lui. Hein.
Non.
Ça serait pas Eddie Boyd à ce moment-là?
Voilà, plutôt, chance. Oui, c'est Eddie Boyd, oui.
Ouais. C'est pas marqué sur le disque, il faut que je regarde un petit peu mieux. On va écouter Eric Clapton, Five Longers, cette reprise sur l'album From the Cradle. Merci encore à toi, Claude, et puis bonne chance pour la vente de ce roman Mississippi Blues.
Merci beaucoup, Marc.
À bientôt, Claude.
À bientôt, Marc. Au revoir.
have you ever been mistreated? You know just what I'm talking about. Have you ever been mistreated? You know just what I'm talking about. I worked 5 long years for one woman. She had enough to put me out. Job in a steel mill, shucking steel like a slave. 5 long years every Friday I come straight to home with a home I pay. Have you ever been mistreated? You know just what I'm talking about. Years for one woman. She had enough to put me out.
Voilà, donc 5 Long Years, c'était bien un morceau signé Eddie Boyle, repris ici par Eric Clapton en 1994 sur son album From the Cradle, un album qu'il faut écouter en lisant Mississippi Blues, le roman de Claude Danick. Voilà, dans quelques secondes, on va passer à la deuxième heure de Sweet Home Chicago et notre deuxième invité qui ne saurait tarder dans le studio, il s'agit de Marc Mitou.
C'est ça, ça